Bien. Alors, je dirais pour commencer que si les mots démocratie et représentation figurent dans l'intitulé de ce colloque, l'expression relativité de l'ontologie demande sans doute à être éclairée, voire justifiée. Elle fait référence évidemment au titre du célèbre essai de Quine, Relativité de l'ontologie. Dans cet essai, l'auteur montre qu'il n'est jamais possible de connaître l'ontologie d'arrière-plan assumée dans le langage d'autrui, sans traduire celui-ci dans un métalangage dont le choix ne peut lui-même être opéré sans arbitraire. Il introduit cette idée par une expérience de pensée. Si un ethnologue rencontre un individu qui parle une langue inconnue, il ne peut établir le sens d'un mot que par observation du comportement d'un locuteur de la langue. Si celui-ci donc s'écrit « gavagué » chaque fois qu'il voit un lapin, l'ethnologue tient pour vraisemblable que l'individu parle de lapin. Mais que désigne-t-il par ces termes? Est-ce un lapin individuel? Le terme universel qui désigne tous les lapins, une partie de lapin, la lapinité ou une section temporelle de lapin. Cette question, qui est à proprement parler une question d'ontologie, eh bien, l'ostension opérée par l'individu qui voit quelque chose qui traverse son champ visuel et qui dit « gavagué », cette ostension, le fait de montrer en prononçant un mot, ne permet pas de trancher entre ces diverses hypothèses. On ne peut donc déterminer quel statut ontologique le locuteur de la langue inconnue attribue au mot qu'il emploie. La référence est, selon le mot de Quine, inscrutable. Alors, parvenu à ce point, on ne va pas manquer de me demander pourquoi, en ouverture de ce colloque, je parle de lapin. La réponse, je le crains, tient plus du truisme que du paradoxe. Démocratie et représentation sont des mots. Il est donc légitime de se demander comment nous en connaissons le sens et, c'est d'ailleurs la même chose vue à l'envers, quelle assumption ontologique nous y investissons, consciemment, implicitement ou pas du tout. La question semble d'autant plus légitime que ces termes ont une origine différente, un mode d'intuition contrasté et que leur relation s'avère, comme chacun le sait, éminemment problématique. L'expérience de pensée que propose Quine sert d'introduction, dans son article, à une réflexion sur l'apprentissage du langage. Comment, pour reprendre le titre d'un autre de ses essais, apprend-on à parler d'objets? Je ne peux ici, bien sûr, que résumer très grossièrement sa réponse. Selon lui, je cite, « au cours de la phase la plus primitive de l'apprentissage des mots, des termes comme « maman » et « eau » (EAU) ont été appris. Ils l'ont été sous la forme de ce que l'on nomme des termes de masse. Moyennant, dit Quine, un processus de renforcement et d'extinction par lequel le domaine spatio-temporel d'application du terme était complété graduellement, sans que pour autant apparaisse l'idée d'objets individuels et circonscrits. Autrement dit, il y a de la maman, il y a de l'eau, il y a de la pomme ou de la betterave. À ce moment-là, le mot est donc strictement un terme de masse. Comme l'écrit Jean Largeot dans son commentaire de Quine, pour l'enfant, eau, rouge, etc., ne sont pas des termes, il les a appris comme des phrases d'observation et au premier stade, il les utilise correctement pourvu qu'il sache reconnaître des présences. Il voit une présence et il dit « maman ». Puis vient ensuite, dans l'apprentissage du langage, la phase d'individuation, où l'enfant commence à percevoir des entités discrètes. Et quand cette capacité d'individuer est acquise, l'enfant est prêt à réévaluer les termes qu'il avait auparavant. Maman, en particulier, arrive à valoir rétroactivement comme le nom d'un objet, vaste et récurrent, dit Quine, qui est néanmoins un individu, donc qui désigne, le mot désigne un terme singulier par excellence, c'est-à-dire un terme qui désigne un individu. Ou, en revanche, demeure un terme de masse, tout comme rouge ou pomme. Toutefois, la maîtrise d'une véritable notion d'objet ne suppose pas seulement l'acquisition d'une capacité d'individuation externe, autrement dit, distinguer la pomme de la betterave. Mais cela exige aussi une individuation externe. Il faut savoir distinguer cette pomme de cette autre pomme. Et donc, le terme de masse change de nature, ou plutôt, il ajoute une autre signification à la première. Il devient un individu, il permet de désigner cette pomme et de savoir si cette pomme est la même que celle qu'on a vue auparavant ou non. D'où cette conséquence capitale qu'en tire Quine, nous ne pouvons savoir ce qu'est quelque chose sans savoir comment ce quelque chose se distingue d'autres choses. Ainsi, dit-il, c'est une phrase de lui qui est très très souvent reprise, ainsi l'identité ne fait qu'une seule pièce avec l'ontologie. Il n'y a pas d'ontologie sans capacité de connaître l'identité. Plus tard, mais ici je passe rapidement, l'enfant acquiert les termes abstraits qui expriment des qualités, des attributs ou des classes au sens logique, tels que rougeur, rondeur ou humanité. Ce sont les exemples de Quine. Mais, dit-il, quelle que soit la nature des termes, l'inscrutabilité de la référence persiste sous une forme subtile, même si nous acceptons comme fixée et arrêtée l'identité et le reste du mécanisme de l'individuation. Elle persiste même si nous abandonnons la traduction radicale et ne pensons plus qu'au français. En effet, poursuit-il, nous avons acquis un grand fond de mots et de locutions de base en imitant nos aînés ou avec leur encouragement dans des circonstances extérieures auxquelles ces locutions s'appliquent convenablement. Parfois, nous avons des motifs de penser que les mots perçus ne sont pas adéquats et nous reconstruisons le discours de l'autre afin de lui conférer un sens particulier. C'est ce qu'on appelle depuis un article célèbre d'un auteur américain dont le nom m'échappe, mais je le retrouverai si je le cherche, principe de charité. Mais il existe, dit Quine, une vaste région médiane où nous pouvons systématiquement reconstruire les références apparentes de notre voisin. C'est-à-dire que nous pouvons faire comme si notre voisin pensait comme nous, alors qu'en réalité, très vraisemblablement, il pense comme lui-même. Il en résulte que nous ne savons jamais exactement si notre voisin donne exactement le même sens que nous à un terme, et la différence s'accroît évidemment lorsque nous passons de termes susceptibles d'une définition extensive, comme cette bouteille par exemple, ou comme des lapins ou des pommes. Lorsque nous passons de tels termes, susceptibles donc d'une définition extensive, à des termes abstrait et polysémique, comme les mots démocratie et représentation. Il faut donc considérer la manière dont nous les apprenons, les comprenons et sommes capables de préciser la nature des objets qu'ils sont censés désigner pour nous, sans qu'on puisse jamais établir avec certitude comment ils sont compris par autrui. Donc, comment apprend-on le sens de mots comme démocratie ou démocratique? Je laisse de côté l'adjectif puisque Bruno va nous en parler tout à l'heure. Démocratie, nous apprenons le mot par imitation et usage, bien sûr, puisqu'il n'existe aucun objet concret susceptible d'être montré du doigt pour exemplifier la qualité ou l'objet abstrait susceptible d'en constituer une illustration pertinente. Mais où trouver des critères susceptibles d'établir justement la pertinence d'un usage tenu pour pertinent? On peut envisager trois pistes: l'étymologie du terme, des exemples historiques paradigmatiques et en dernier ressort, le recours à une définition. Je vais commencer par évoquer le mot démocratie. Il n'est pas nécessaire, de ce point de vue-là, de s'étendre sur la question de l'étymologie, parce que dans ce cas-là, comme dans tous les autres, l'étymologie ne garantit jamais rien, puisque l'emploi des mots change avec le temps et sans que les locuteurs en aient toujours conscience. D'autre part, le sens du mot n'est clair que d'un point de vue différentiel. C'est un élément d'une série, il indique que l'objet dont on parle n'est pas une théocratie, une ochlocratie, une timocratie, une plutocratie, une bureaucratie, une technocratie, une épistocratie, et on pourrait allonger la liste. Si, en outre, on passe des termes fondés sur le terme grec kratos, qu'on traduit généralement par pouvoir, au terme arché, qui en grec signifie, dont ce fait éclate le génie de la langue grecque, à la fois le commencement et le commandement, nous pourrons opposer la démocratie à la monarchie, entendu au sens de monarchie absolue, à l'oligarchie, à la hiérarchie, à l'anarchie. Ou encore, à partir d'autres racines, à la dictature ou à la tyrannie. Positivement, en revanche, on a guère avancé quand on a dit, à partir de l'étymologie, que la démocratie est le gouvernement du peuple. On n'a rien dit, en fait, si l'on n'a pas défini ce que l'on entend par gouvernement et par peuple. Et il va de soi que ces termes peuvent être pris en des acceptions si différentes que leur combinaison s'avère susceptible d'engendrer des systèmes aussi nombreux que divers. Il faut noter en particulier que l'emploi du mot « peuple » au singulier postule l'unité de l'objet, alors que l'un des problèmes majeurs posés par l'idée de démocratie tient justement au rapport entre la majorité et les minorités de toute nature qui existent dans un État. La démocratie, par exemple, se définit-elle par le règne de la majorité ou par le respect des minorités, question dont l'actualité est toujours brûlante. Donc, l'étymologie n'apporte rien, sauf une illusion de savoir et, disons, une définition journalistique, c'est la même chose. Faut-il donc recourir, dans ces conditions, des exemples historiques ? Mais ici, la difficulté tient à ce que, comme l'a montré Paul Venn dans son grand livre « Comment on décrit l'histoire », les concepts historiques, je cite, « permettent de comprendre, parce qu'ils sont riches d'un sens qui déborde toute définition possible, pour la même raison, ils sont une invitation perpétuelle au contresens. » La révolution, entre guillemets, la ville, entre guillemets, est faite de toutes les villes et de toutes les révolutions déjà connues, et attend de nos expériences futures un enrichissement auquel elle demeure définitivement ouverte. Il n'en va pas autrement, évidemment, de la démocratie. Avec toutefois une différence aggravante, la démocratie est pour nous un concept normatif. Il faut donc se limiter, quand on veut l'illustrer par des exemples, à des modèles politiquement corrects et pas trop éloignés de nos valeurs. Or, cet exercice peut s'avérer délicat. On peut poser la question suivante à un public contemporain. Un régime où seuls 10% environ de la population possède des droits politiques, qui pratique l'esclavage, où l'Assemblée du peuple exerce le pouvoir exécutif, car les lois sont tenues pour immuables, et où une proposition contraire au droit entraîne la peine de mort, un tel régime est-il une démocratie ? Je pense que, formulé en ces termes, beaucoup de gens répondront non, et pourtant, vous l'avez tous compris, je viens de résumer en quelques termes réducteurs mais pas inexacts la nature de la démocratie athénienne. Il en résulte que les références historiques ne guident nullement notre compréhension de ce qu'est la démocratie. En réalité, c'est le contraire. Nous n'opérons pas une synthèse des expériences passées, nous projetons sur celle-ci un modèle préalablement reconfiguré selon les critères de nos propres certitudes. Et ces certitudes sont elles-mêmes diverses et changeantes, comme en témoignent les adjectifs usuellement attachés aux termes démocratie libérale ou illibérale, sociale, populaire, continue, participative, des droits, etc. J'en laisse beaucoup, sans parler de la réduction contemporaine chez beaucoup d'auteurs de la démocratie à l'état de droit. L'incertitude demeure donc totale. Il est impossible de se référer à des modèles qui manifesteraient une essence de la démocratie. Il faut se résigner à la définir. Mais comme la même question va se poser avec la représentation, il paraît préférable de considérer d'abord celle-ci et je reviendrai ensemble ensuite sur les définitions conjointes ou opposées de la démocratie et de la représentation. Si l'on regarde donc maintenant le mot « représentation », on observe qu'il est à la fois un terme de masse qui désigne une notion abstraite et globale. Il y a de la représentation comme il y a de la pomme. Mais il y a aussi, le sens peut aussi désigner un objet abstrait qui est individué soit par son mode de fonctionnement. Quand on dit par exemple la démocratie, la représentation proportionnelle, soit par les qualités des objets auxquels il s'applique, lorsqu'on parle de la représentation d'un tableau, mais aussi de la représentation d'un individu, etc. Le mot est extrêmement général et je ne considérerai ici évidemment que sa seule dimension politique. Restriction qui est indispensable car l'extrême polysémie du terme implique à la limite la totalité de l'expérience possible, comme le montre la célèbre première phrase du grand livre de Schopenhauer, « Le monde est ma représentation ». Si le monde et ma représentation coïncident, la représentation coïncide avec le monde. Alors évidemment, je ne vais pas me lancer dans ces considérations d'un idéalisme déchaîné et je vais considérer simplement les acceptions du terme qui reçoivent une signification politique. Ainsi circonscrite, l'idée de représentation a deux sources. Il faut considérer à la fois leur divergence et leur convergence. La première source est transcendantale. Elle s'interroge sur la condition de possibilité du pouvoir. Dans toutes les sociétés humaines, la majorité des individus obéissent à un petit nombre d'entre eux. La volonté des seconds détermine la volonté collective, en ce sens que cette volonté s'impose à tous, donc aussi à ceux qui n'y ont pas consenti. Elle permet à une société humaine de ne pas se réduire à une collection d'individus juxtaposés, mais de constituer une entité structurelle et durable, avec une identité, puisque l'identité et l'ontologie sont coextensives. La seconde source de l'idée de représentation est normative. Elle vise à définir les conditions d'un gouvernement légitime et non plus d'un gouvernement quelconque. Comment prendre en compte l'opinion du plus grand nombre sans nier la verticalité du pouvoir dont la disparition entraînerait le chaos ? Concilier ces objectifs opposés ne peut se faire qu'à travers des mécanismes par lesquels les gouvernés désignent les gouvernants, les surveillent, les contrôlent et peuvent éventuellement les désavouer. Cette seconde source conduit donc à quelque chose qui peut évoquer la notion de démocratie, en un sens, il est vrai, essentiellement négatif, ce n'est pas la tyrannie, et extrêmement vague du terme démocratie. Alors, en ce qui concerne la première acception du terme, la première source, l'auteur auquel on pense est évidemment Hobbes, et en particulier au chapitre 16 et 17 du Léviathan, où il montre comment l'engendrement d'une personne artificielle, l'État, capable d'une volonté unifiée, constitue le seul moyen d'éviter la guerre de tous contre tous, et donc l'autodestruction de l'humanité. L'essence même de la représentation, comme le dit Lucien Jaume, dans son grand livre sur Hobbes, et l'articulation unité-altérité. Mais je ne développe pas plus longuement cette question puisque ce sera l'objet d'une communication d'Olivier Joangean cet après-midi. Cette conception de la représentation est très profonde, mais elle comporte une conséquence problématique, c'est que n'importe quoi marche. Puisque n'importe quel système politique est préférable à la guerre de tous contre tous, aucun système ne peut être récusé a priori. Seule une révolution, événement de pure fait, peut conduire à poser la question en d'autres termes. Et on le voit parfaitement avec la Révolution française. Car ces acteurs se trouvent en face d'un vrai problème. N'importe quoi ne marche plus. Ils doivent tout changer pour que tout change, et en même temps, ils doivent faire en sorte que tout ne change pas. Il faut qu'une volonté collective demeure opposable aux volontés individuelles, mais il faut aussi que certaines données de l'existence sociale, essentielles aux yeux des nouveaux maîtres, ne puissent être remises en question. D'où un paradigme différent de la représentation qui va simultanément proclamer de nouveaux principes et faire en sorte que ceux-ci ne puissent servir d'instrument et de justification à une remise en cause de ce que l'on entend préserver. Les constituants vont donc simultanément fonder l'ordre politique sur le consentement des citoyens, puisqu'ils vont recourir à une élection, d'ailleurs censitaire et à plusieurs degrés, et s'efforcer d'écarter ce qu'ils nomment démocratie, ce qu'ils nomment et dénoncent sous le nom de démocratie. Il est vrai que leur tâche est simplifiée par le fait qu'ils entendent par ce terme, comme tous les auteurs du XVIIIe siècle, en particulier Rousseau, un système dans lequel le peuple exerce directement le pouvoir exécutif, c'est-à-dire décide par exemple, et d'ailleurs aussi le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire en d'autres termes que le peuple décide de la guerre et de la paix. Mais le peuple au sens de la démocratie athénienne, bien sûr. Mais on sait que l'histoire prendra sa revanche et que l'inertie du langage en viendra à faire dire au mot « représentation » à peu près le contraire de ce que les constituants entendaient par là. D'où la situation contemporaine où le terme signifie simultanément des réalités différentes. Les représentants tiennent lieu des représentés, ils sont leurs porte-parole, c'est-à-dire les porte-parole des acteurs, et ils sont sommés de leur ressembler, impératif qui, comme chacun sait, sans être directement contradictoires, ne sont pas nécessairement convergents. On se retrouve ici aussi en présence d'une pluralité de significations entre lesquelles il est à la fois nécessaire d'arbitrer, car dans le cas contraire, on ignorera de quoi l'on parle, et impossible de choisir sur la base d'une enquête empirique, ou par ostension, pour revenir au début de ma communication. On observe donc que les mots « démocratie » et « représentation » ont une histoire différente et un mode d'apprentissage contrasté. L'un fait référence à une réalité supposée connaissable, puisqu'historiquement attestée, mais l'autre, au contraire, « représentation » est une théorie construite, intellectuellement élaborée, pour répondre à des objectifs et à des arrière-pensées intelligibles, et qui est censée légitimer un ordre politico-juridique d'une certaine nature. Pourtant, ces mots n'ont pas une portée identique. On ne peut en donner une définition ostensive, on ne peut leur conférer une signification à partir d'une réalité objective et préexistante. Ne pouvant les reconnaître comme des entités données, ni les poser comme des concepts parfaitement déterminés qui permettraient de construire leur objet comme des concepts mathématiques, on ne peut que les définir stipulativement, comme on dit dans le jargon contemporain. Or, une telle définition stipulative est condamnée à demeurer déclarative, c'est-à-dire interne au langage. Elle dit ce que j'entends, un jeu transcendantal, bien sûr, elle dit ce que j'entends par tel mot, mais n'identifie aucun caractère nécessaire et suffisant qui permettent de caractériser objectivement la chose que je désigne et de la reconnaître sans ambiguïté. Cette définition est à la fois arbitraire, d'autres caractères pourraient être allégués, et floue. Par exemple, on pourrait opposer une démocratie sociale à une démocratie bourgeoise. Et floue, dans la mesure où elle ne fournit que des exemples. j'appelle de telle manière tel objet, tel objet, tel objet, etc., et n'apporte donc, malgré l'apparence, qu'une illusion de généralité. Par conséquent, cette définition qualifie et, en un sens précis, suscite un phénomène, mais elle ne constate et n'identifie pas un donné. Il en résulte une conséquence incontestable, mais contre-intuitive. La démocratie et la représentation pourraient être des concepts juridiques, mais à l'état naturel, si l'on peut dire, ils ne le sont pas. Si l'on définit le concept juridique comme le produit de l'association d'une conséquence nécessaire à un événement, exprimé par une proposition où s'articule un antécédent et un conséquent, ce concept est une classe au sens logique, ou un ensemble au sens mathématique. C'est donc une entité abstraite. Il ne s'agit ni d'un tas où les objets ont une localisation dans l'espace, ni d'une énumération qui, située dans le temps, ne comporte aucune limite et ne garantit pas l'identité des termes énumérés, en l'espèce des événements qui justifient l'application des conséquences de la norme. Or, comme l'a dit Quine, j'ai déjà répété à plusieurs reprises, il n'y a pas d'entité sans identité. Dans le cas des concepts juridiques, l'identité spécifique des événements allégués n'est pas garantie par leur qualification juridique qui n'excède pas le niveau de l'énumération. Tel acte est un vol, et tel acte est un vol, et tel acte est un vol, etc. Mais qui est défini seulement par l'application à l'événement de la conséquence prévue par la norme, tel acte est puni de la peine du vol. Aucune conséquence de droit n'est attribuée à la reconnaissance du caractère démocratique ou représentatif d'un objet ou d'un individu. L'usage de ces qualificatifs demeure libre et subjectif, comme les mots du langage ordinaire. En outre, il ne se réduit jamais à un jugement de fait, il implique toujours un jugement de valeur subjectif par nature. Faute d'être introduit dans une proposition normative, ces termes demeurent l'apanage de la doctrine juridique qui joue avec, mais qui jouera avec jusqu'à la consommation des siècles. Les choses seraient différentes s'il existait des juges qui pourraient, en appliquant des normes juridiques ou par une démarche purement prétorienne, décider si tel régime est ou non démocratique, si tel mode de représentation est ou non légitime. Mais un tel juge n'existe pas dans l'état actuel du monde. Et quand la question se trouve effectivement posée, ce qui arrive, elle est toujours résolue sur des critères inévitablement politiques, ce qui revient à dire que l'ennemi n'est pas démocratique et que l'ami l'est évidemment par nature. Ainsi, par des chemins différents, les mots démocratie et représentation ont acquis une polysémie redoutable. Leur emploi naïf, appris sur le tas, est loin de toujours permettre en pratique de saisir dans quel sens un locuteur quelconque les emploie, a fortiori si différents locuteurs l'emploient dans le même sens. Un usage relativement précis des termes suppose des analyses complexes, des rappels historiques et des distinctions subtiles qui font la joie du philosophe, mais dont l'auditeur moyen que l'auditeur moyen juge fastidieuse et qui sans doute obscurcissent pour lui puisqu'elle n'éclaire sa vision des choses. L'examen des deux termes pris séparément conduit donc à un diagnostic de relativité générale. Mais ne peut-on imaginer de réduire celle-ci à une relativité restreinte ? Autrement dit, n'est-il pas possible de clarifier la question en définissant les termes l'un par l'autre ? On a constaté déjà qu'issus de problématiques différentes, ils en sont venus à converger. Si la représentation au sens de Hobbes n'implique pas de rapport nécessaire à la démocratie au sens courant du mot, la représentation au sens contemporain paraît compatible, voire confondue avec elle. D'où deux rapports concevables des termes. On peut considérer représentation et démocratie comme des contraires ou poser un signe d'égalité entre représentation et démocratie. Je ne développe pas la première hypothèse parce qu'elle a déjà été évoquée, c'était la représentation au sens de Sieyès. Non seulement la démocratie est impossible, la démocratie directe est impossible, car on ne peut réunir l'ensemble du peuple français en un même lieu comme on peut réunir la communauté d'un canton suisse, ou elle est dangereuse, Et probablement les deux, car elles conduiraient à remettre en cause tout ce qu'on ne veut pas précisément changer. Dans cette construction, le contraste des termes aboutit à leur attribuer un sens précis. Mais ces motifs, comme son dispositif, sont manifestement inacceptables pour la mentalité contemporaine. Reste donc la possibilité de les réunir, voire de confondre les deux termes, représentation et démocratie. Ne sont-ils pas inséparables? L'un n'est-il pas le revers de l'autre, comme en témoigne l'expression convenue démocratie représentative? Formule concordataire et magique, à laquelle semble souscrire plus ou moins implicitement la doctrine contemporaine. Et ainsi, en effet, le problème est supprimé. Il est supprimé, mais est-il résolu? Pour répondre à cette question et pour terminer, une comparaison s'avérera peut-être utile et éclairera peut-être le fond de la question. Cette comparaison, elle est avec la célèbre première phrase de l'article 6 de la Déclaration des droits, « La loi est l'expression de la volonté générale ». Et là encore, je serai bref, puisque Denis Barranger va en parler tout à l'heure. Mais si on cible exclusivement cette formule initiale, « La loi est l'expression de la volonté générale », que peut, dans cette phrase, signifier la copule « et » ? Elle ne désigne pas l'inclusion d'une espèce dans un genre, comme lorsqu'on dit « les Crétois sont des Grecs ». Elle ne désigne pas l'instanciation d'une qualité dans une substance, lorsqu'on dit « le corbeau est noir ». Elle est l'équivalent d'un signe d'égalité, lorsqu'on dit, exemple célèbre de Bertrand Russell, que Walter Scott est l'auteur de Waverley. C'est un signe d'égalité. Mais est-ce que ce signe d'égalité est pris dans le même sens que le signe mathématique? Non, évidemment, parce que le signe mathématique signifie que les réalités sont interchangeables. Or, en est-il de même lorsqu'on dit « la loi est l'expression de la volonté générale » ? Non, car en réalité, il n'est pas possible de permuter les termes. La formule manifeste au contraire la nécessité d'une réduction de l'un à l'autre. Et celle-ci peut s'opérer dans les deux sens. La volonté générale est-elle ce que dit la loi? C'est la version de Carré de Malbert. Ou la loi est-elle ce que dit la volonté générale? C'est-à-dire en pratique ce que dit le juge. C'est la version tenue aujourd'hui, comme vous le savez, pour politiquement correct. Or, à l'évidence, il n'en est pas ainsi. Dans le cas de la représentation, je veux dire, il en est de même, à l'évidence, dans le cas où on pose un signe d'égalité entre démocratie et représentation. Toute société est, je le disais déjà tout à l'heure, caractérisée par le fait qu'un petit nombre d'individus gouverne le plus grand nombre. Le recours à la représentation peut être justifié, voire défendu comme un idéal, par divers arguments. Mais elle est d'abord une donnée incontournable. La démocratie consistera dès lors en ceci que le petit nombre est librement choisi par le grand, contrôlé par lui, et censé répondre autant que faire se peut à ses attentes. Dans le cas contraire, on sera en présence d'une représentation sans démocratie. Soit, à l'inverse, la démocratie ne peut être que directe. L'idéal est donc une démocratie sans représentation. L'ennui est que cet idéal est inaccessible. Tout le monde ne peut pas décider de tout et il est préférable que tout le monde ne gouverne pas en même temps. Même si la démocratie semi-directe ou la démocratie participative ne sont jamais que des correctifs qui limitent le recours à la représentation, elles ne sauraient l'éliminer. La représentation doit être considérée comme une modalité technique incontournable ou comme un mal nécessaire. Sa légitimité sera donc inversement proportionnelle à son extension. On mesure ainsi l'ambivalence de l'expression « démocratie représentative ». Dans le premier cas, la démocratie représentative est démocratique parce que représentative. Dans le second cas, la démocratie représentative est démocratique, bien que représentative. Faut-il en conclure pour terminer en disant que, au terme de ce parcours, on est revenu à la relativité de l'ontologie, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de définir ces termes de façon rigoureuse, ni séparément, ni conjointement. Je dirais, pour terminer, oui et non. Oui, si l'on considère qu'on a peut-être clarifié les définitions possibles, à la fois indépendantes et solidaires, de la démocratie et de la représentation. Non, en revanche, si l'on considère que ces définitions ne renseignent pas sur ce qu'est ou n'est pas la réalité, mais seulement sur ce qu'elle devrait ou ne devrait pas être, selon tel ou tel point de vue. On aboutit en effet à des expressions, bien que ou parce que, insusceptibles d'une traduction logique, parce qu'elles n'enregistrent aucun fait objectif, mais se réduisent au sentiment ressenti des acteurs, qui comparent la réalité à ce qu'ils estiment devoir être, autrement dit, à des jugements de valeur positifs ou négatifs. Or, le réel demeure ce qu'il est, indépendamment de l'approbation ou de l'improbation des citoyens. La double énigme demeure en effet largement énigmatique. On a seulement montré, si l'on admet les observations précédentes, deux points. D'une part, les deux notions confrontées, si elles ne s'opposent pas, varient de manière inverse l'une de l'autre. Et plus il y a de représentation et moins il y a de démocratie, réciproquement. Mais d'autre part, si une représentation sans démocratie est concevable, l'inverse n'est pas vrai. La représentation s'impose parce que, comme le disait Sieyès, les sociétés modernes sont trop nombreuses pour délibérer collectivement sur tous les sujets. Elles doivent mettre en œuvre une nécessaire division du travail. Mais la représentation est également nécessaire, comme le disait Benjamin Constant, parce que la liberté des modernes consiste précisément dans le droit de ceux-ci de ne pas faire de politique. Par conséquent, opposer, comme il est de mode aujourd'hui, démocratie participative et démocratie représentative s'avère vide de sens, car la première n'est pas moins représentative que la seconde. Elle est seulement représentative autrement. Peut-on d'ailleurs garantir que les représentants tirés au sort seront, en un sens quelconque du terme, plus représentatifs et moins manipulés que des représentants élus ? L'idée qu'il suffit de ne pas être élu, fait purement négatif, pour être représentatif, n'est-elle pas simplement naïve ? Et j'utilise le mot naïf comme un euphémisme. La difficulté majeure demeure cependant celle-ci. Qu'est-ce pour vous, pour moi, pour quiconque qu'être bien représenté ? Considéré dans son idiosyncrasie, l'individu ne peut être représenté par personne d'autre que lui-même. Comme le disait Rousseau, la volonté ne se représente pas. En outre, une représentation objective n'implique pas une représentation subjective. Chacun peut se reconnaître dans la politique d'un individu qui ne lui ressemble en rien, mais fait ce qu'il désire, ce que le représenté désire, je veux dire, bien sûr, et pas dans celle d'un individu qui lui ressemble, mais fait le contraire. Car il y a des représentants qui trahissent leur mandat. Quelle que soit la forme du gouvernement, il y aura toujours des citoyens satisfaits et d'autres qui ne seront pas, car les intérêts des individus ne seront jamais spontanément convergents. Au total, démocratie et représentation sont solidaires et indispensables, mais il est impossible, en droit comme en fait, de les réduire l'une à l'autre, comme de les garantir l'une par l'autre.